The executives assigned to this show decided to test it in Jersey. As a result, they think you mouth breathers are too stupid to understand my masterpiece. So listen up, dum-dums, and let me set the stage.
The whole reason we're doing this thing is because if the girls reported their assaults, they wouldn't get any justice from Darlington. We beat up a lot of people based on this theory.
I'm sure there's a very funny story behind this. And I don't mean funny like ha-ha-ha funny.
Oui, je sais, vous les avez fait à votre image, vous les aimez bien, tout ça, mais excusez-moi de vous dire qu'ils sont quand même furieusement cons.
Give mommy a little kiss.
Allora.
The problem is not that there is evil in the world, the problem is that there is good. Because otherwise, who would care?
My daughter lives with her mother, no matter if she wants me to pay for every damn thing she can right-click online. When she talks to me at all, she's riding me about white male privilege. The myth of white male privilege.
Oh, man! This was supposed to be my big moment.
Bien le bonsoir, bienvenue à l'écoute de Série Folie, votre émission qui vous parle série télévisée avec l'ami Aurore. Bonsoir Aurore.
Bonsoir.
C'est déjà le 16e épisode de la saison 5, dis donc.
Ben oui, il fallait s'y attendre. Après le 15e, venait le 16e.
Oui, ben je suis plus impressionné par déjà le nombre d'épisodes sortis cette saison-ci, ça défile. On va, comme d'habitude, repasser en revue avec toi deux séries emblématiques que tu as envie de mettre en avant, de revoir, une nouvelle et puis une qui revient.
Exactement.
On change un peu la règle de début de saison où on ne parlait que de nouveautés.
Voilà. Donc, on commence par la nouveauté, malgré tout, pour la mettre un petit peu à l'honneur. C'est une nouveauté que j'ai découverte parce que Netflix nous l'a proposée il y a deux, trois semaines maximum. C'est une série anglaise qui s'appelle The End of the Fucking World. On ne dira pas le nom, le mot...
Fucking, non, ça on le dit pas.
Non, on le dit pas, c'est interdit. Et donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une série relativement courte, hein, puisque ce sont 8 épisodes d'une vingtaine de minutes chacun, qui vont nous faire suivre... deux jeunes adolescents qui ont plus ou moins 17 ans, un jeune garçon qui pense être psychopathe et donc s'est mis en tête de tuer quelqu'un pour voir. Il s'est déjà pas mal entraîné sur des animaux et donc il se dit qu'il serait peut-être temps de passer à un plus gros gibier. Ça te met directement dans l'ambiance, hein.
Oui.
Et puis une jeune fille qui vit une situation familiale où elle est quasiment inexistante aux yeux de sa mère et regardée d'un air un petit peu flippant par son beau-père. Et donc, on sent que la fille, elle a besoin de s'évader de tout ça. Et elle a un petit peu horreur aussi des gens normaux, des gens ordinaires. Elle trouve ça ennuyeux. Donc, elle va s'enticher de ce jeune homme totalement bizarre et plutôt effrayant qui traîne dans la cafétéria de son école. Et elle va décider que ça y est, bah, ils vont sortir ensemble. Lui, bah, comme ça lui donne une proie toute trouvée pour son projet macabre, il refuse pas. Hein, et les voilà donc partis dans une sorte de relation qui débute comme ça sur des chapeaux de roue, mais des roues qui fonctionnent carrées. On va les suivre dans toute leur maladresse, dans toute leur bizarrerie aussi, parce qu'aucun des deux n'est totalement clair sur ses intentions réelles et sur ce qu'il va chercher exactement chez l'autre. Mais suite à au fait qu'ils se sont un petit peu monté le bourrichon l'un l'autre, ils vont décider de partir en voyage sur un coup de tête, plus ou moins. Ils vont voler la voiture d'un parent et partir à l'aventure, comme ça. Donc, on va les suivre. Alors, ce qui est bizarre, c'est que j'ai dit, pour commencer, que c'était que 8 petits épisodes, et pourtant il se passe vraiment beaucoup de choses, en fait, parce que là on en est vraiment que dans le premier épisode, en fait, ce que j'ai raconté là.
Et je suis d'ailleurs content que tu ne vas pas trop loin dans l'explication, parce que moi j'en suis qu'au quatrième
t'as pas encore vu la fin.
Non.
Oui. Donc de fait je ne dévoilerai pas la suite de l'histoire, mais j'ai été absolument emballée par cette série. Je crois que c'est ton cas aussi. Hein. C'est une série à laquelle on accroche tout de suite, dès le premier épisode.
Oui, vraiment. C'est frais, ça bouge bien, c'est décalé et on a envie de connaître l'aventure complète.
Oui, exactement. C'est joué donc par deux jeunes acteurs qui sont vraiment à la hauteur de leur rôle, qui incarnent ces personnages un petit peu décalés avec beaucoup de crédibilité, je dois dire. Et puis c'est très très frais, très original, et en même temps avec une capacité de venir nous cueillir dans notre réalité, peut-être bien plus ordinaire à nous, quoi. Il y a une forme de vérité aussi, vérité de sentiments, vérité de rapport à la vie qui se dégage de ces deux personnages, de la relation qui se noue entre eux, qui fait que vraiment, plus on avance dans la série et plus on est amoureux de ces personnages et on a envie, nous aussi, de les suivre jusqu'à la fin du monde, donc du foutu monde, évidemment. donc voilà, je ne peux que conseiller The End of the F***ing World.
C'est bien, tu prends des précautions, c'est
prêt. Mais non, mais écoute, c'est écrit comme ça dans le titre.
Comme ça.
Moi, je respecte le titre.
Bien sûr.
Exactement. Et je crois vraiment que on ne peut pas être déçu en regardant cette petite série. On continue avec cette fois-ci une non-nouveauté, donc.
Voilà, alors, saison combien ?
Saison 2, encore une fois.
Ouais, c'est assez frais quand même.
C'est encore relativement frais également. Il y a sûrement plein d'auditeurs qui ne l'ont pas encore découvert. C'est peut-être l'occasion, même si, malheureusement, alors je dis malheureusement, mais ça signifie pas qu'on reste sur sa fin parce que ce serait pas des saisons bouclées, mais en tout cas... La série a été annoncée comme annulée au bout de sa deuxième saison, donc ça n'ira pas plus loin. À ma grande déception, je dois dire, vu que c'est vraiment une série totalement barrée et qui, je crois, en avait encore beaucoup sous la pédale. D'ailleurs, la fin de la saison 2 le laissait pas mal voir et donc c'est un petit peu triste malgré tout. Alors je vais dire quand même de quoi il s'agit.
Bien sûr.
Il s'agit de Dirk Gently's Holistic Detective Agency. Je ne sais pas si tu te souviens que j'avais parlé de cette série-là l'année passée. Ça nous parle de quoi ? Ça nous parle donc de... Alors, il y a plusieurs personnages, mais notamment Dirk Gently, c'est un détective, mais un détective un peu particulier, puisque c'est un détective vers lequel on ne va pas pour qu'il règle une enquête pour nous. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Les enquêtes lui tombent dessus totalement par hasard, et c'est aussi totalement par hasard qu'il va finir par les régler. Il se laisse un peu guider par... par sa capacité à, je sais pas, à toujours être au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est un petit peu de ça qu'il s'agit, pour tomber sur la résolution des cas qu'il a à traiter. Il emmène avec lui un autre jeune homme qui, au début de la saison 1, est... comment on appelle ça, une sorte de valet dans un hôtel, et qui va totalement changer de vie suite à la découverte de Dirk Gently. Alors, la saison 2 par rapport à la saison 1 était encore plus barrée. Même si, étant donné qu'on part dans un univers peut-être un petit peu moins, alors c'est on part dans un univers beaucoup plus imaginaire, conte de fées, etc., vu que il s'agit d'une sorte d'imaginaire enfantin, comme ça, avec de la magie, une baguette magique notamment qui envoie des formes multicolores ou ce genre de choses-là. Donc au début, c'est un petit peu bizarre. La saison 1 était aussi bizarre, mais c'était plus sur un côté... peut-être pas SF, mais en tout cas, il y avait des sortes de machines à remonter le temps et des trucs qui permettaient de transvaser l'âme dans le corps d'autres personnages ou ce genre de choses-là. Donc c'était un autre délire, mais c'était intéressant de voir que... il y a moyen finalement de s'amuser avec toutes les sortes d'imaginaires dans cette série-là. Et de deux, que même si au début on est un petit peu en train de se demander dans quoi je suis tombée ici, mais tout ça prend forme et cohérence et devient relativement... Enfin... trouve une forme d'explication rationnelle, alors rationnelle à la Dirk Gently, hein, mais malgré tout une forme d'explication au fil de la saison, quoi. Donc c'était une saison tout aussi réussie à ce niveau-là, avec des personnages qu'on était heureux de pouvoir retrouver aussi. Il s'agit des mêmes personnages et donc qu'on voit évoluer, et ça aussi c'était plutôt sympathique.
Grosse déception, non ?
La seule déception, oui, c'est qu'elle a été annulée, et surtout avec une grande incompréhension, parce que vraiment c'est une série de grande qualité. À la base, c'est une série BBC America et qui en plus est diffusée par Netflix. Donc je me dis, bon, quoi, Netflix, est-ce que tu fous ? Il serait peut-être temps de te bouger pour sauver Dirk Gently, parce que ce serait dommage, quoi. Mais bon. Voilà.
Tu as peu d'espoir.
Ah, ben, ça fait un petit temps, enfin quelques semaines déjà qu'ils ont annoncé l'annulation, et j'ai pas vu de nouvelles contraires apparaître. Donc voilà. Mais pour ceux qui l'ont pas encore vu, en tout cas, c'est quand même une découverte qui vaut la peine, parce que vous allez de toute façon aller de surprise en surprise, quoi. Il y a aucun doute là-dessus. Il y a aucun moyen d'imaginer à quel point ils peuvent aller loin et à quel point, même en allant super loin, ils arrivent à se rattraper et à retomber sur leurs pattes au final, quoi. Je dois dire que c'est du grand art à ce niveau-là.
Bien. Le mot de la fin déjà pour cette revue de début d'émission.
Oui.
On va faire une petite pause, marquer la pause musicale habituelle.
Oui, on va s'écouter Runaway de Del Shannon, entendu justement dans Dirk Gently's Holistic Detective Agency.
As I walk along, I wonder what went wrong with our love, a love that was so strong. And as I still walk on, I think of the things we've done together while our hearts were young.
the pain, wishing you were here by me to end this misery. And I wonder, I wonder why.
Voici de retour. On va aborder le sujet du jour dans Série Folie. Alors, quel est-il, Aurore ?
Alors, il s'agit de l'ordre et du chaos. On va parler de ça aujourd'hui. Et où j'ai trouvé mon inspiration, il ne faut pas aller chercher bien loin. Si vous avez regardé Dirk Gently comme moi la saison 2, ça ne parle que de ça, du combat permanent entre l'ordre et le chaos. Donc voilà. C'est aussi simple que ça. Alors si on réfléchit un petit peu justement à cette question-là, à la question, on va commencer par l'ordre, si tu veux bien en fait.
Je veux bien, je n'ai pas d'objection.
Dans la partie suivante, on parlera du chaos. Donc si on réfléchit à la question de l'ordre, eh bien en fait, on peut se dire que toute fiction... c'est une sorte de mise en ordre, alors une sorte d'ordre chronologique, un ordre cohérent aussi, un ordre dans lequel chaque chose et chaque personnage est censé avoir sa fonction. Hein. On ne va pas commencer à nous raconter des trucs qui n'ont absolument rien à voir avec l'histoire. Généralement, on essaie quand même d'avoir un minimum de cohérence dans tout ça. Donc chaque fiction, chaque récit est une mise en ordre d'un réel qui sans ça est beaucoup plus foisonnant que toutes les histoires qu'on pourrait se raconter. En plus, mais le couple qu'on va retrouver entre l'ordre et le chaos, c'est un couple qui est beaucoup moins moral que l'espèce de contradiction entre le bien et le mal. On aurait un combat entre le bien et le mal. Dans l'idée d'ordre et de chaos, on a aussi quelque chose de beaucoup plus vital, de beaucoup plus cyclique aussi. Je pense notamment à certaines philosophies ou certaines religions, notamment l'hindouisme, dans lequel on a vraiment l'idée que ces deux principes sont fondateurs et aussi essentiels l'un que l'autre, quoi. Hein. Et on passe sans arrêt de l'un à l'autre. Et ce caractère cyclique qui finalement ne s'arrête jamais, je trouve, correspond assez bien aux séries, quoi, parce que les séries aussi, le but, c'est pas d'atteindre enfin un ordre, d'atteindre enfin une situation finale où tout le monde est heureux, mais c'est toujours pouvoir recommencer dans le chaos l'épisode d'après ou la saison d'après, surtout maintenant que les séries... Même les séries qui sont finies peuvent recommencer à tout moment, mais c'est encore plus le cas, évidemment. Donc voilà. C'est aussi l'idée que, contrairement donc à l'opposition entre le bien et le mal, mais ici, dans les séries, si on reste suffisamment longtemps dans un univers et avec les personnages, on se rend compte que rien n'est jamais tout blanc et tout noir. Et au contraire, on a souvent l'occasion dans les séries de développer bien davantage une sorte de zone grise, l'ensemble de la palette. Alors ici, je voudrais pas te faire de référence aux nuances de gris, mais c'est...
Non, évidemment pas.
Mais de manière peut-être... Un petit peu plus moral, justement, se dire qu'il y a toute une palette qui nous est révélée des personnages et de ce qu'ils sont capables de faire. Je pense par exemple, que pour illustrer cette idée, à la série Gotham, où finalement, justement, pourquoi j'ai choisi cette série-là ? Parce que c'est une série où on a, de manière relativement facilement identifiable, les gentils et les méchants, quoi, hein ? On a les bons et les mauvais. Mais en même temps, étant donné qu'on est dans une série, c'est pas aussi simple que ça, parce que justement les mauvais, on a l'occasion de voir comment ils sont devenus mauvais, on a l'occasion de voir les moments où ils ont des doutes, les moments où ils sont touchants, etc. Et puis les bons, ben eux aussi, il leur arrive d'avoir des doutes, il leur arrive de faire des trucs pas très très recommandables, et donc au final ça nous donne une vision beaucoup plus subtile de la moralité humaine, quoi. On n'est pas dans du tout blanc ou du tout noir, et donc à ce niveau-là, c'est plutôt intéressant, je trouve. Bon, alors maintenant, pour ce qui est de la représentation véritablement de l'ordre et de sa place dans les séries, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Ben évidemment, on va retrouver la représentation d'un combat. Un combat entre l'ordre et le chaos. Ça peut être sur le plan purement métaphysique. Je pense notamment à des séries comme Carnival, dans laquelle vraiment là c'est peut-être la série dans laquelle c'est le plus clair. Hein. On a vraiment un principe davantage positif et un principe négatif, et les deux se mènent une forme de guerre qu'on ressent être au fondement de l'existence du monde même. Hein. De même, on pourrait imaginer la même chose pour les deux personnages qu'on retrouve dans Lost vers la fin de la série, qu'on pourrait aussi imaginer comme le blanc et le noir, l'ordre et le chaos. Une autre série à laquelle j'avais pensé à ce propos-là aussi, mais cette fois-ci sur un tout autre point de vue, c'est la série Earl. Alors là, la vie de Earl est en elle-même chaotique, mais il existe un principe supérieur, un principe d'ordre supérieur qui est le karma, et qui va lui permettre de remettre de l'ordre dans
son
sa
chaos.
Vie. Voilà, exactement. Alors, ça peut être aussi au point de vue politique qu'on va avoir un combat comme ça pour essayer d'avoir davantage d'ordre. Évidemment, toutes les séries qui nous montrent les forces de l'ordre...
Oui, mais c'est ce que j'allais dire. La loi en
oui,
soi.
Oui, c'est ça. La loi en soi est un principe de l'ordre. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut être un principe vraiment rigide de l'ordre comme principe absolu qui va s'imposer de manière parfois un peu brutale, mais souvent c'est plus subtil que ça. Encore une fois, on va avoir, je pense notamment à la série Law and Order, mais c'est le cas dans beaucoup d'autres séries où on nous représente justement les forces de l'ordre. On va nous montrer que finalement, c'est pas l'ordre qui vient s'imposer comme ça au chaos, c'est une société qui est une sorte de négociation permanente entre ces deux principes. Quoi. La société, c'est un truc qui évolue, c'est un truc qui est traversé par la négociation, par la discussion, par les débats, etc. Et donc, c'est ça que les séries nous permettent de mettre en scène. Une autre série à laquelle j'avais pensé pour ça aussi, mais là, plutôt dans ses origines, c'est Deadwood. Deadwood qui serait une sorte de chaos où il n'y a pas vraiment de communauté à la base, et toute l'idée, ça va être comment est-ce qu'on va réussir à faire advenir l'ordre au milieu du rien du tout, quoi, et de l'espèce de Far West sans foi ni loi qui pouvait exister, ou en tout cas qui existe dans nos imaginaires pour sûr. Une autre manière de représenter aussi la recherche de l'ordre, le combat pour l'ordre, c'est simplement le combat pour la vérité. On a une situation qui est au départ est illisible et que un héros va essayer de ranger, que c'est généralement par une sorte de méthode plus ou moins scientifique pour découvrir la vérité. Alors évidemment, on peut penser à ça du côté des enquêtes policières, du genre Sherlock évidemment, mais même les experts, c'est un petit peu sur ce mode-là. On a plein d'indices qui au départ partent dans tous les sens, on ne sait pas du tout ce qu'on va pouvoir en faire, et puis au final, mais on arrive à une seule solution possible, et ça, c'est magique, quoi. Et puis évidemment, je ne peux pas penser à Dr. House, où là ce sont les symptômes. On a plein de symptômes et souvent les symptômes mentent aussi tout autant que les hommes, et donc ça va être au Dr. House de trouver la vérité au milieu de tous ces mensonges, qu'ils soient faits par les êtres humains ou bien par leur corps, quoi.
Ah oui, c'est original d'aller découvrir ça dans cette série là L'ordre et le chaos.
Ah bon?
Oui.
Bon, ok. Une autre représentation de l'ordre aussi. Et là, c'est pas tellement... Enfin, c'est aussi l'ordre et le chaos, sauf que ça se représente comme le passage d'un ordre ancien à un ordre nouveau, je pense, à la série Buffy. Dans la série Buffy contre les vampires.
On en parle enfin.
Tu l'attendais, hein. Dès que t'as entendu.
Dès que tu m'as dit le sujet tout à l'heure, avant l'émission, je t'ai dit « Ah, on va parler de Buffy
». Oui, c'est vrai qu'on allait parler de Buffy. Mais donc, ici, c'est vrai que dans Buffy, on a également une héroïne qui est une sorte d'agent de l'ordre, hein, puisqu'il s'agit de rétablir un petit peu une forme de justice minimale. Dans le monde, mais ça se traduit par justement une forme de révolution. On a un ordre ancien qui, si on fait une lecture un petit peu féministe, serait un ordre un petit peu patriarcal et contre lequel Buffy va se rebeller pour mettre en place un nouvel ordre, un ordre notamment dans lequel il n'y a pas une seule sauveuse et puis tout un conseil organisé par des hommes qui vont surveiller que la tueuse fasse bien son travail, mais toute une série de tueuses qui deviennent responsables d'elles-mêmes et qui prennent leur vie en main, quoi. Donc où on se partage le pouvoir, etc. Donc ça c'est une forme un petit peu différente d'ordre, une autre manière aussi d'imaginer l'ordre sous la forme d'une révolution. Quelque part, c'est un petit peu étonnant, mais on peut imaginer que faire la révolution, ce soit aussi une forme, une manière de rétablir l'ordre d'une autre manière que simplement par l'imposition d'une autorité déjà en place, quoi. Donc ça c'était une autre idée. J'avais aussi pensé à certaines séries dans lesquelles il y a évidemment un combat entre l'ordre et le chaos, mais il y a aussi de la part des personnages une grande volonté d'essayer de donner du sens au chaos pour essayer de mieux comprendre ce qui est en train de leur arriver. Et c'est justement le fait de mieux le comprendre qui va peut-être leur permettre d'après mieux le combattre. Je pensais notamment à ce propos à la série Stranger Things, dans lequel notamment la mère va mettre en place toutes sortes de stratégies pour essayer de communiquer et de comprendre un petit peu ce qui est en train d'arriver à son fils, qui est quelque part du côté du chaos absolu. Hein, et donc il y a une tentative de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça pour essayer de comprendre. Et puis je pensais aussi, mais sur un tout autre ordre ici, à la série Mindhunter, dans lequel on a des monstres absolus qui seraient la représentation du chaos. Et donc on pourrait, au départ, on s'imagine, mais ce sont des monstres, donc il n'y a pas d'explication possible. Et là, dans cette série-là, on nous montre les débuts de l'idée selon laquelle, il y aurait moyen en fait de trouver des explications, une forme de fonctionnement rationnel, ou en tout cas des explications psychologiques au comportement de ces monstres, quoi. Et donc là aussi, c'est une manière de donner un peu de sens au chaos tel qu'il existe. Voilà, tout ça nous parle d'ordre sous plein d'aspects différents. Je crois qu'on pourrait encore en citer beaucoup d'autres, par exemple toutes les séries qui évidemment vont essayer de rétablir la justice à tout prix, du genre Revenge. Dans Revenge, on a un ordre qui est un ordre absolument inacceptable, vu que c'est un ordre des menteurs, un ordre des gens qui ont fait mettre un innocent en prison, etc. Et donc toute la série, toute la vengeance qui est mise en scène ici, c'est justement pour rétablir un ordre nouveau, un ordre qui serait un ordre véritable, quoi.
Mm-hmm. Tu as encore d'autres séries sur tes petites fiches pour dans la séquence suivante, ou
tu crois que je les ai toutes utilisées?
Non.
Pas du tout.
J'espère que non, parce que moi j'ai quelques noms emblématiques. Si tu ne les cites pas, je les citerai pour toi.
Si tu as des idées du côté de l'ordre, tant qu'on parle de l'ordre.
J'ai envie de dire, ça parle toujours un peu des deux.
Ah oui.
Puisque l'ordre a son pendant qui est du
c'est
côté
vrai.
De obscur. Donc, allez, on va lancer deux perches. Tu vas me dire simplement si on en parle plus tard ou pas.
Mm-hmm.
Fringe.
Mm-hmm. Je n'ai pas pensé à Fringe.
Mais c'est deux mondes parallèles et on a l'impression qu'il y a un monde de gentils, organisé, qui combat un monde un peu plus noir, chaotique.
Oui, même si les justement et ça j'en parle peut-être un petit peu du côté du chaos, mais on se rend compte que le monde des autres, le monde que tu présentes comme chaotique est peut-être mieux organisé, justement. Il y a certains personnages qui sont un petit peu à l'ouest dans la version originale, qui sont beaucoup plus sûrs d'eux, etc., dans la version alternative, etc.
C'est pas un chaos intégral, c'est vrai. C'est différent,
on se demande
c'est mal
entre
perçu.
Les deux,
oui.
Où est l'ordre et où est le chaos, quoi.
D'accord. Et le cas Supernatural?
Alors ça, j'y ai pensé, oui.
Bon, on en parle dans quelques minutes. Petite pause musicale, si tu le veux bien.
Oui, on va s'écouter If It Be Your Will de Leonard Cohen, entendu dans Revenge.
If it be your will that I speak no more, my voice be still as it was before, I will speak no more, I shall abide until I am spoken for. If it be your will, if it be your will that a voice be true from this broken hill, I will sing to you from this broken hill. All your praises they shall ring. If it be your will to let me sing.
Suite de Sarifolie, c'est maintenant avec la troisième et déjà dernière partie de cette émission. On vous parle d'ordre et de chaos et on va parler de chaos. Ben oui.
Mais du coup,
c'est ce qu'on va faire, évidemment.
Du coup, il n'y a rien qui marche. Ou ben oui, donc on va parler de chaos puisqu'on a parlé de l'ordre précédemment, chacun son tour. Hein. Dans cette émission, tu sais qu'on est très organisé. Donc, cette fois-ci, c'est la place du chaos. Et on va commencer tout de suite en se disant que ben, finalement, le chaos, bien souvent, c'est ce qui va rendre les choses intéressantes hein, dans une série, puisque c'est une sorte de tension vitale, comme je l'ai dit précédemment. Mais ça, c'est aussi une tension vitale contre l'ennui, une tension vitale qui apporte un petit peu de liberté. On peut sortir des carcans, peut-être un petit peu trop sages de l'ordre, pour aller voir ailleurs si j'y suis.
Et puis surtout, ça amène une part d'imagination, de choses tout à fait sorties de leur contexte ou complètement originales. Quand on est dans l'ordre, on est dans la représentation du réel.
Oui, oui, plutôt. C'est vrai que bien souvent, même si les séries qui prônent le plus l'ordre sont peut-être pas les séries les plus réalistes. Hein, ceci dit, l'un ne va pas forcément avec l'autre. Alors, ici, pour illustrer ce que je viens de dire, j'ai pensé à deux séries en particulier, deux séries que j'opposerais, entre guillemets, même si elles n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre. Mais donc, on aurait d'un côté donc, The Good Place qui illustre bien cette idée que finalement, le fait de mettre un petit peu de chaos dans un truc bien ordonné, bien organisé, etc. Alors, je pense évidemment surtout à la saison 1, hein, ici, puisque les choses évoluent et puis on se rend compte petit à petit que c'est peut-être pas aussi simple, propre et rangé qu'on ne le pensait. Mais en tout cas, au départ, c'est l'idée que on a une personne qui arrive dans un monde absolument parfait, hein, The Good Place, donc qui est censé être une représentation du paradis. Et elle n'ose pas trop le dire à qui que ce soit, mais elle n'est pas censée être là. On l'a confondue avec quelqu'un d'autre. Et c'est grâce à ça qu'il va y avoir une histoire et que ça va être intéressant à suivre. Et un des propos de l'histoire, c'est peut-être aussi de nous montrer que c'est peut-être plus intéressant de suivre ces gens-là que des gens qui, eux, seraient vraiment parfaits et pour qui on n'aurait pas grand-chose à dire, quoi. Donc à ce niveau-là, la série The Good Place montre bien tout l'intérêt que peut avoir le chaos, toute l'idée du grain de sable qui vient enrayer la machine juste quand il ne faut pas. À opposer à ça, je mettrais plutôt cette fois-ci dans la représentation d'un cauchemardesque de ce que l'ordre, la volonté d'ordre peut apporter de pire. Je mettrais la série Black Mirror, qui souvent, dans beaucoup de ses épisodes, nous présente des technologies qui sont censées nous aider, qui sont censés nous permettre de mettre peut-être un petit peu plus d'ordre dans notre vie et qui finissent par y apporter une forme de dictature absolue. Alors ça peut être parfois une dictature de l'image, ça peut être une dictature de certaines machines qui décident à notre place, ça peut être une dictature de la foule. Enfin, il y a toutes sortes de dictatures qui nous sont représentées ici, mais il y a vraiment, j'ai l'impression, l'idée que en voulant avoir davantage peut-être de maîtrise de notre corps, de notre vie, de notre société, on en arrive à quelque chose d'absolument horrible, quoi. Et donc ça démontrerait bien aussi qu'on a bien besoin de chaos dans la vie.
Voilà.
Bah oui.
On prend.
Ça peut être intéressant aussi de le préciser. Alors, pour montrer ça, finalement, il y a beaucoup de séries qui se présente un petit peu sur ce principe. Ben voilà, le chaos, en fait, c'est le principe de base de la réalité, quoi. Le chaos, il est partout. Le chaos, ça fait partie de la vie. La vie, c'est un truc totalement foutraque. Et donc, on va vous le montrer, on va vous la montrer telle qu'elle est, dans toute sa splendeur. Je pense, par exemple, à une série comme Better Things, qui se présente comme une série plus ou moins réaliste, hein, puisque basée sur la vie réelle de la vie de Pamela Adlon avec ses trois filles, et qui est totalement chaotique. Les relations qu'elle peut entretenir avec chacune d'entre elles peuvent souvent nous donner envie de nous pendre ou bien de tuer quelqu'un. Et pourtant, c'est une manière de montrer, la vie, c'est ça, quoi. La vie, c'est pas un truc, c'est pas une publicité pour Ricoré, c'est pas des enfants super beaux et super sages qui mettent la table le matin pour leurs parents. Enfin, c'est pas des trucs toujours propres et bien rangés. C'est un truc qui part dans tous les sens, ça gueule, ça pleure, et puis en même temps, tout le monde s'aime bien quand même, et ça n'en est pas moins une famille, quoi. Donc on peut avoir ce propos-là qui se dégage d'une série comme celle-là. Sur un tout autre mode, on pourra aussi avoir l'idée selon laquelle la vie est composée principalement de chaos dans Seinfeld. Alors cette fois-ci, c'est pas tellement une représentation réaliste de la vie, mais il y a quand même l'idée que Rien n'a forcément de sens, de but. On n'a pas de grande mission dans la vie. Personne n'évolue. Un des principes de la série, c'est que les personnages n'évoluent jamais. Hein. Ils n'apprennent jamais rien de leurs erreurs. Mais par contre, autant les personnages eux-mêmes sont source de chaos, autant les personnages, enfin la société auquel ils s'opposent est elle aussi source de chaos, quoi. Hein. C'est dans tous les sens que ça part. C'est pas uniquement eux. C'est l'ensemble de la société, l'ensemble de la vie qui est faite d'individus qui sont juste totalement égoïstes, égocentrés et qui n'arrivent jamais à véritablement à prendre quoi que ce soit pour l'avenir. Donc voilà pour Seinfeld, on pourrait avoir le même principe qu'on retrouverait dans Don't Trust the Beach, par exemple, ou bien dans Philadelphia, ou ce genre de série-là, où on peut voir aussi que finalement les personnages vivent dans un chaos absolu. Une autre série à laquelle j'avais pensé aussi, c'était Shameless, qui nous représente aussi assez bien le chaos comme un des fondements de la vie auquel on retourne régulièrement, quoi. Ça fait partie de la vie de se retrouver parfois au plus bas. Ça fait partie de la vie d'avoir la vie de chacun qui part dans tous les sens et que c'est pas toujours possible de donner du sens et de réunir tout ça à un moment donné, quoi. Donc on peut aussi repérer ça à ce moment-là. L'idée du fait que le chaos soit au fondement de la réalité, c'est une idée qu'on peut essayer de combattre. Et à certains moments, d'ailleurs, les personnages de Shameless se battent pour s'en sortir, hein, tout simplement. Ils vivent des situations vraiment difficiles et le principe, c'est qu'il va falloir absolument se battre, autant tout seul qu'en famille, pour réussir à ne pas être évincé de sa maison, par exemple, ou ce genre de combat-là. Mais ça peut être aussi une réalité qu'on va finir par accepter, par embrasser et avec lequel on va réussir à faire trouver une forme de paix. Et là aussi, alors c'est le cas dans Shameless, mais c'est le cas dans beaucoup d'autres séries aussi. Beaucoup de séries qui nous parlent du chaos et du fait que le chaos soit omniprésent dans nos vies nous invite aussi parfois à faire la paix, à embrasser totalement ce chaos pour avoir un rapport peut-être moins conflictuel avec lui, quoi, et être plus apaisé. Voilà au niveau de ce chaos-là. Alors une autre forme du chaos qu'on peut retrouver dans les séries, c'est le chaos qu'on retrouve dans les mondes post-apocalyptiques, où là, c'est un chaos fait de désolation et un petit peu de nostalgie aussi, puisque on se rend compte de tout ce qu'on a perdu du monde actuel, à quel point le monde actuel, il était finalement pas si mal que ça, à quel point il était relativement bien organisé, et puis maintenant qu'il n'y a plus tout ça, maintenant qu'il n'y a plus une société, maintenant qu'il n'y a plus une police, etc., ça devient n'importe quoi, l'espèce humaine devient folle, et ce genre de choses-là. Bon, je pense évidemment en priorité à The Walking Dead, mais je crois que dans la plupart des mondes post-apocalyptiques, on va pouvoir retrouver ce genre de représentation-là du chaos. Alors, on peut aussi retrouver l'idée du chaos dans les trajectoires d'individus qui sont en lutte, mais dont la lutte est largement conduite par par le hasard des rencontres, des choix, etc. Et donc, c'est le cas notamment dans Supernatural, par exemple, où on a deux individus qui, à certains moments, pourraient faire le choix d'intégrer des agences ou des groupes beaucoup plus structurés, beaucoup plus organisés pour mener la chasse qu'ils mènent depuis des années maintenant contre les différents monstres qu'ils peuvent rencontrer. Mais en même temps, ils font un choix différent, le choix de la liberté, le choix de rester des individus libres. Et donc, ils se laissent un peu porter par le hasard des cas qu'ils vont rencontrer, etc. Mais souvent, c'est aussi eux qui vont provoquer le chaos suivant, quoi. Et donc, il y a une sorte de va-et-vient permanent, puisqu'ils se battent pour instaurer de l'ordre, mais à chaque fois, ce combat finit par mener à un nouveau chaos. Et c'est de plus en plus le cas, plus on avance dans la série, et plus ce qu'ils font finit par créer plus de problèmes qu'autre chose. Ce qui explique
c'est
aussi
le moteur de la série, s'il n'y a plus ça après.
Oui, exactement. Dans ce cas-ci, on a bien la représentation de ce que je disais au tout début, c'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de ce chaos pour redéstabiliser l'ensemble de l'édifice à chaque nouvelle saison. Voilà au niveau de Supernatural. On peut aussi avoir la représentation d'un chaos sous une autre forme, et je pense ici à la série Rectify, dans laquelle il y a un chaos qui est provoqué par une accusation probablement injuste d'un jeune homme qui a passé la plus grande partie de sa vie dans le couloir de la mort. Donc, y a un chaos qui est là énorme, qui a foutu un désordre indescriptible dans la vie de chacun des personnages de sa famille. Mais en même temps, ce qu'il faut apprendre, et ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit sur le fait qu'il faut embrasser le chaos à certains moments, ils doivent tous apprendre non pas à remettre de l'ordre dans leur vie, mais simplement à accepter le fait qu'il y a certaines choses qui ne se récupèrent pas, quoi. On ne peut pas tout réparer. Il y a certaines choses, et notamment des années de vie qui ont été perdues, qu'on ne récupérera jamais. Et donc ça aussi, c'est un message qu'on peut retrouver, c'est que au bout d'un moment, il faut aussi peut-être faire le deuil de l'ordre et de la vie parfaite qu'on s'était imaginée au départ. Par exemple, quand on a des enfants, comme dans le cas de la famille dans Rectify. Autre idée de chaos encore, cette fois-ci je pense à un chaos qui serait un petit peu un chaos métaphysique, un petit peu comme le karma dans My Name is Earl, mais cette fois-ci ce serait un principe beaucoup moins bon, puisque je pense à la série Fargo. Dans la série Fargo, on a aussi une espèce de principe comme ça qui suit un petit peu chaque personnage dans la série, mais en même temps, c'est pas dans le sens où ça va leur permettre d'améliorer leur vie, de s'améliorer eux-mêmes ou quoi que ce soit. C'est au contraire, on retrouve une vie dans laquelle des personnages pour qui à chaque fois, il va se passer, je sais pas, une sorte de petit déclic qui est souvent déclenché par en tout cas dans la saison 1, je me souviens plus si c'est le cas dans les autres saisons, par une sorte de petite sonnette. Je sais pas si tu te souviens de ça. On entend une petite sonnette et à ce moment-là, on sait que ça va dégénérer, quoi. Il va se passer un truc, mais on est mal parti. Que ce soit simplement une sorte de pétage de câble à l'intérieur de la tête de quelqu'un et ça va mal tourner, ou bien d'autres événements qui peuvent arriver. Mais en tout cas, à chaque fois, il y a une sorte de chaos comme ça qui s'instaure dans l'ensemble de l'histoire, quels que soient les personnages. C'est pas voulu du tout, c'est un chaos qui frappe au hasard, mais qui en même temps se présente un peu comme une fatalité, parce qu'il se présente vraiment de manière très, très régulière et il n'épargne personne. Enfin, j'avais aussi pensé à une autre forme de chaos. Cette fois-ci, c'est l'idée que la vérité elle-même finit par se présenter comme un chaos. Je pensais à la série Dark dont on avait parlé la semaine passée, où la découverte de l'origine, notamment du personnage, d'un des personnages principaux, celui qu'on suit au départ en tout cas, va créer plus encore de confusion que qu'apporter véritablement de réponse, quoi, parce que quelque part ça le mène à une situation où inextricable pour laquelle et sur laquelle il n'a pas vraiment de prise, quoi. Il est pris dans une sorte de piège temporel assez intéressant aussi à ce niveau-là. Enfin, je terminerai avec la série Dirk Gently, puisque c'est elle qui m'a inspiré ce sujet. Dans Dirk Gently également, on a l'idée selon laquelle c'est en embrassant le chaos que l'ordre va peu à peu se mettre en place. Et ici, c'est vraiment au sens propre, c'est-à-dire que c'est pour Dirk Gently, en faisant absolument n'importe quoi comme il a l'habitude de le faire, que par magie, il y a tout qui va, toutes les pièces du puzzle vont se mettre en place de manière assez impressionnante. Donc on est dans une sorte de déterminisme, mais totalement anarchique. Et il y a un fort message anti-perfection qui se dégage souvent de ces séries-là qui mettent en avant le chaos. C'est l'idée de dire, mais il faut arrêter de chercher la perfection. Finalement, c'est justement en n'étant pas parfait qu'on est vraiment nous-mêmes au minimum, ou en tout cas qu'on est plus parfait qu'on ne pourrait l'imaginer.
Voilà, ce sera le mot de la fin.
D'accord.
Tu avais bien potassé ton sujet, ça c'est clair.
Oui.
Tu le maîtrisais bien. Mais le chronomètre est tel qu'il est, on va déjà devoir se quitter. Cette émission sera évidemment podcastée dans les prochains jours et disponible via les réseaux sociaux et le site internet www.seriefolie.be. La dernière musique qui va nous accompagner pour terminer cette émission, quelle est-elle?
Alors évidemment, Everything in the Right Place de Radiohead, entendu dans Scam.
Merci Aurore pour cette belle émission et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. I'm not afraid to
Tried to say